Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Iron Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois bienvenue Marie Bakoumania Bakwala, directeur général de l'agence congolaise de presse ACP. Il est ancien directeur de la rédaction en charge des questions économiques et des investigations au quotidien Le Potentiel, ancien correspondant de l'agence France Presse, Reuters, Jeune Afrique et ancien producteur des documentaires vidéo sur les investigations avec Canal France International. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue Marie Bakoumania, bonjour.
Bonjour Alain.
Comment allez-vous?
Je me porte très bien, mais les défis sont toujours là et on est là pour les relever.
Directeur général de l'agence congolaise de presse. Pour ceux qui ne connaissent pas cette agence, c'est quoi son historique?
Ben, l'ACP, c'est le tout premier établissement, la toute première entreprise créée par le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. C'était le 12 août 1960. Donc nous sommes l'aîné de toutes les entreprises de la République démocratique du Congo parce que nous étions les premières à être créées véritablement par des Congolais, par le premier d'entre nous, le premier ministre Lumumba. L'ACP s'est connue beaucoup plus par le ASAP à l'époque du président Mobutu, parce que le président Mobutu à l'époque avait mis beaucoup de moyens financiers et logistiques pour que la ZAP puisse porter la voix du Zaïre à travers la planète. Et c'était des ambitions à l'époque qui ont été rencontrées parce qu'il y avait des professionnels qui ont fait ce travail et surtout la volonté politique de faire parler de la RDC à travers la ZAP était bien palpable à l'époque de la ZAP. Aujourd'hui, l'ACP est en train de renaître.
Avant qu'on parle de la renaissance de l'ACP, il y a un nom célèbre de Landulu Salakasa.
Ah ben, il n'y a pas que Landulu Salakasa. Il y a les Kande Djambulaté, ils sont passés par là. Ramazan Ibaya, Panou Panou est passé par là. D'ailleurs, l'immeuble aujourd'hui de l'ACP a été acheté grâce au lobbying de Panou Panou auprès du président Mobutu. Donc, c'est dire que ce sont des grands noms qui sont passés. Et les Bema Ekonzo, ce sont des noms qui me passent comme ça. Ali Kalonga, ce sont des grands noms de la presse congolaise qui sont passés par là. Vous savez, Alain, ce sont des chaussures tellement à la pointure, tellement grandes que je me trouve tout petit. Je n'arrive pas à m'imaginer être le successeur d'un Landulu Salakasa. C'était un grand. Alors je me dis, le défi est énorme parce qu'il faut faire comme eux. Il faut les ressembler, il faut même les dépasser. Est-ce que nous en avons le moyen? Je ne peux pas le dire.
Et c'est ça que nous allons voir tout au long de cette émission. L'ACP est représentée dans les 26 provinces de la RDC.
Absolument.
Et comment vous êtes organisé?
Ben, nous avons une coordination des provinces. D'ailleurs, la valeur ajoutée de notre produit, ce sont des informations qui viennent des provinces. Les autres ne sont pas là. Et nous, on parvient à remonter les informations des provinces et à les redistribuer auprès des médias. Et comme vous savez, comme agence, nous sommes des grossistes. Nous proposons des informations à d'autres médias, quitte à eux de les exploiter, quitte à eux d'approfondir tous les sujets que nous proposons. Donc, de toutes les provinces, nous faisons remonter les informations, non seulement pour les médias congolais, mais également pour les médias étrangers. Et nous avons décidé de renouer avec cette habitude-là d'offrir des informations congolaises à l'extérieur du pays. Ça fait cruellement défaut. On n'est pas très présent à l'extérieur simplement parce que nous avions démissionné. Nous n'avons pas décidé d'être présents. Et aujourd'hui, nous avons décidé au niveau de l'ACP de faire de cette ACP un outil diplomatique pour la République démocratique du Congo. Et j'ai dit tout de suite que ce n'est pas pour porter une voix monocolore, une voix monocorde. Nous voulons porter une voix plurielle de la République démocratique du Congo, que la planète entière entende ce que nous pensons, ce que les Congolais de la majorité, de l'opposition, de la société civile, les citoyens qui est de la forêt équatoriale, dans les savanes du Kasaï, etc., qui est dans les puits de minerais, dans les Kivu, encore dans l'ex-Katanga, nous portons la voix de ceux-là. Et nous voulons que cette voix soit entendue de partout. Il est désagréable que la voix de la RDC soit portée par d'autres. Moi, ça me gêne énormément d'être congolais. Et quand il y a une information importante, je dois la puiser auprès des autres médias. Je n'ai rien contre les médias internationaux. Je travaille avec eux. Mais pourquoi est-ce que notre voix à nous, nos exclusivités à nous, sont réservées aux médias internationaux? Mais pourquoi est-ce qu'eux ne réservent pas des exclusivités aux médias africains? aux médias congolais, on doit se poser cette question. Nous avons Okapi, nous avons Top Congo, ce sont des radios qui marchent. Pourquoi est-ce que le président français ne viendrait pas réserver des exclusivités à nos médias? Il ne nous respecte pas. Et pourquoi est-ce que nous devons nous courber à chaque fois pour aller demander des interviews pour nos autorités auprès des radios étrangères, des médias étrangers? Moi, j'ai estimé que, avec le peu que nous connaissons, avec l'effort que nous allons fournir pour répondre aux standards, il serait temps que demain, si un opposant, j'ai dit Fayoulou, j'ai dit Katumbi, a un message à faire passer, un message patriotique, un message de sensibilisation de la population, ben, qu'il passe par la CP, parce que c'est la voie officielle. Et les présidents de la République, quand il y a des grandes décisions qui tombent, hein, des grandes orientations de la République, ben, ça doit passer par la CP. Même les grandes réponses à des questions internationales, ça devrait passer par la CP. Est-ce qu'on a toujours compris cette volonté-là? Je doute fort. La dernière en date, si je peux l'illustrer, un ministre qui est dans un sommet international, et nos envoyés spéciaux, ils ont accès à tout le monde, sauf au ministre de la RDC.
Quel contraste.
C'est pas loin, hein. Et c'est quelque chose qui est resté jusque-là. Ça ne descend pas chez moi, parce qu'au travers de la gorge, ça ne descend pas, parce que j'ai du mal. Et quand ils sont conscients en communication, on nous dit, bon, vous n'avez qu'à prendre les informations sur Twitter. Je me dis, on n'a pas encore compris. Et c'est pourquoi ça m'a davantage décidé de venir à Radio Okapi sensibiliser. Vous avez un instrument, ben pourquoi vous ne l'utilisez pas? Cet instrument est respecté ailleurs. Je ne vous dis pas le nombre d'invitations que je reçois depuis que je suis DG de l'ACP pour aller nouer des partenariats, et tout le monde me dit, ben, on sent qu'il y a du renouveau, on sent qu'on peut compter sur vous, on sent que nous pouvons nouer des partenariats pour que nous puissions exploiter des informations de la République démocratique du Congo, parce qu'on en a besoin. Ils m'invitent et je vais signer des contrats avec eux. Mais à l'intérieur, est-ce que nous, Congolais, est-ce que les responsables politiques, gouvernementales congolais, comprennent qu'ils ont un instrument important qu'ils peuvent utiliser pour vendre l'image du pays, pour parler du pays en bien? Apparemment, il y a encore un travail à faire de ce côté-là.
Alors, l'ACP, vous l'avez dit, à un moment, a connu son heure de gloire et après a semblé sombrer. Et c'est notamment avec votre retour qu'on sent un certain renouveau. Comment vous définissez ce renouveau que vous apportez?
Ben écoutez, Alain, c'est très simple. Tout au début, lorsque la ZAP était en sa période de gloire, c'est parce qu'il y avait le Telex. C'était une technologie de pointe à cette époque-là. Depuis, on n'a plus rien fait pour trouver les successeurs du Telex. Plus rien. Et les successeurs du Telex aujourd'hui, c'est le fil d'actualité que nous n'avons pas. L'ACP n'a pas. C'est pas un site internet, non. Une agence de presse aujourd'hui, c'est un fil d'actualité. C'est les gens qui s'abonnent à ce fil d'actualité. Et c'est ce fil d'actualité qui fait parler l'agence. Et nous ne l'avons pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler toute l'année. J'ai totalisé aujourd'hui une année, jour pour jour, depuis que nous avons fait la remise et reprise à l'Agence congolaise de presse. Nous faisons tout pour que nous puissions avoir ce fil d'actualité. Lorsque nous aurons ce fil d'actualité, c'est-à-dire nous allons trouver un successeur au Telex, nous allons redevenir compétitifs. Et pour redevenir compétitif, il faut avoir des produits compétitifs. C'est-à-dire des dépêches compétitives, des vidéos compétitives, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'ACP fait des vidéos, et c'est des vidéos qui sont tournées dans les normes. Nous faisons également des sonores qui sont également tournées dans les normes, et des photos qui sont également prises dans les normes.
Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
C'était pas le cas. Il y a même dans la logique des journalistes de l'Agence congolaise de presse, d'une certaine époque, il s'est considéré comme un quotidien. C'est-à-dire, ils prennent l'information, ils dorment avec, et puis ça va paraître demain. Alors que c'est une agence, c'est le temps réel. C'est vous qui donnez les informations pour les autres. Ça sert à rien d'être une agence de confirmation des informations données par les autres. Il faut être une agence qui donne les informations, qui livre les informations en primeur. Et c'est le travail que nous faisons, c'est le travail de conscientisation des officiels, le travail de conscientisation des hommes d'affaires, le travail de conscientisation de tous les Congolais, que l'instrument par excellence pour passer le message du Congo, c'est l'Agence congolaise de presse. Parce que en tant que presse, nous serons pris et ici au pays et à l'extérieur du pays. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'assurer cette transition numérique qui a manqué à l'Agence congolaise de presse. Lorsque nous aurons réussi cette transition numérique, et ça demande beaucoup de moyens qu'on n'a pas, mais avec les moyens du bord, c'est pourquoi ça prend du temps. Si on avait du moyen, on serait déjà passé à la vitesse supérieure. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire des peu de ressources insignifiantes que nous récoltons, nous arrivons à faire ce que nous sommes en train de faire, à voyager pour nouer des partenariats, à envoyer des gens pour qu'ils puissent apprendre, parce que si il y a ce retard là sur le plan,
il faut s'actualiser.
Il faut actualiser le personnel. Nous faisons appel régulièrement à des amis de bonne volonté qui sacrifient 2 semaines, 3 semaines de leurs vacances pour former nos gens ici à Kinshasa, mais on ne doit plus continuer à vivre de l'aumône. Hein, c'est pourquoi moi je lance aujourd'hui, j'en profite pour lancer un appel pathétique, hein, aux différents ministres, au premier ministre Samalou Kondé, au ministre de la communication qui nous accompagne 100%, mais ses collègues de budget et des finances doivent savoir que à un moment donné, il faut libérer les fonds suffisamment à temps pour que cette révolution, cette réforme que nous sommes en train de mener puisse aboutir. Parce que la salubrité médiatique prônée par les chefs de l'État, sans la CP, cette salubrité médiatique restera un discours. Alors qu'avec la réforme de la CP, une réforme profonde de la CP, qui produit des dépêches qui montrent l'exemple, la salubrité médiatique va s'opérer automatiquement.
Et cela d'ailleurs devrait permettre de concrétiser la volonté politique.
Mais bien sûr, la volonté politique du chef de l'État. En me nommant, et c'est pas un scoop, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas cherché un propagandiste. Il a cherché un technicien. Il a trouvé que ma personne, j'étais le technicien qu'il fallait pour faire ce travail-là. D'ailleurs, en me nommant, pour moi, c'était une grosse surprise de penser à moi en ce moment-là. Venez diriger l'agence congolaise de presse. Ben, j'ai perdu certains avantages que j'ai gagnés là où j'étais. L'appel du pays étant, et puis le défi étant, un challenge important, ben c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de relever ces défis. Pour que l'ACP décolle, il faut pas de gros moyens. C'est pas un studio ultra moderne qu'on va installer. C'est juste des caméras, c'est juste des bandes montage, c'est juste des ordinateurs. Et parfois, une centaine, 200 ordinateurs, ça suffit pour l'ACP. Et une connexion Internet au débit régulière.
Et ça ne coûte pas les yeux de la tête.
Ça coûte pas des millions. Je pense que de plus ou moins, si on met à disposition de l'ACP aujourd'hui 2 millions de dollars, je pense que c'est un investissement qui va aller jusqu'à 10 ans.
L'Agence congolaise de presse s'est aussi donnée pour mission de lutter contre la désinformation à travers son service de fact-checking.
Ben oui, le débunkage, c'est comme ça que nous l'avons appelé. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait un prêtre, Jean Bedel, pour ne pas le citer, et on a discuté de la question de fact-checking. J'avais l'impression que j'étais en face du chef fact-checking de AFP d'où je venais. Il connaissait tellement sa matière que je me suis dit, mais quel gâchis!
Il est sous-utilisé.
Oui, il est mal utilisé. Il était à Kikwit. C'était l'agent ACP à Kikwit. Quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais ça, quel gâchis! Qu'est-ce que tu fous à Kikwit? Je lui ai demandé de venir à Kinshasa et de mettre en place ce service. Mais aujourd'hui, ce service, pour moi, je peux considérer que c'est la fierté de mon mandat. À un an de mon mandat, je peux dire que le père Jean Bedel et la dizaine de journalistes qui l'entourent, des jeunes journalistes qui l'entourent, ben, dans 2 ans, 3 ans, on parlera d'eux. Pour vous illustrer combien nous, Congolais, nous ignorons nos capacités. Le père Jean Bedel devait aller à une formation. Moi, j'ai sollicité une formation, une mise à niveau, comme je le fais toujours, au Maroc. Et il arrive là-bas. Les organisateurs s'étant rendus compte de son savoir, ils ont dit non. Toi, tu peux pas être
formé.
Être formé.
C'est toi qui dois être plutôt
formateur.
Ah, bien sûr.
Et il repart le 27 comme formateur. C'est une fierté énorme qu'on ait découvert cette compétence qui moisissait pratiquement à Kikwit. Et on l'a valorisé aujourd'hui. C'est pas seulement valorisé ici au Congo, mais valorisé également sur le continent. On a reconnu ses capacités, pas ici, mais au Maroc, très loin de la mer partie.
Nul n'est prophète chez soi.
Malheureusement.
Comment se présentent les représentations de l'ACP en international?
Ben, nous avons trouvé que tous les bureaux étaient fermés. La ZAP, à l'époque, avait des bureaux en Chine, en Belgique, en France, au Sénégal, aux États-Unis, à New York. Et nous avons trouvé, malheureusement, que tous les bureaux étaient fermés. Et nous avons fait un choix. Nous avons décidé de rouvrir le bureau de Bruxelles. On a rouvert un bureau de liaison, juste une sorte de boîte aux lettres, où on voit l'ACP présent sur la place de Bruxelles. Pourquoi la place de Bruxelles? Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. L'Union européenne, toutes les activités tournent à Bruxelles. Et lorsqu'on est à Bruxelles, il y a moyen de rayonner à travers toute l'Europe. Il y a moyen de centraliser les informations qui viennent de partout en Europe. C'est pourquoi on a rouvert ce bureau dans un premier temps avec 5 membres du personnel. Mais il y a un qui fait des navettes régulièrement Kinshasa-Bruxelles. Vous voyez le coût que cela représente, alors qu'il aurait été plus facile de l'installer à Bruxelles, mais pour le moment, c'est lui que nous préparons pour qu'il puisse se prendre. Et vous savez, nous avons du personnel qui est là-bas, qui a donné le meilleur de lui-même, des personnes de qualité, deux agents. Mais à un moment donné, il faut qu'il se repose. On doit dignement les renvoyer en retraite. Dignement. Mais on a encore besoin d'eux pour le moment. On a besoin d'eux pour 2, 3, 4, 5 ans. Mais il faut préparer la jeunesse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le jeune qui fait des va-et-vient sur Bruxelles. Ça nous embête un peu plus, ça coûte un peu cher. Et nous espérons que dans les jours à venir, on va l'installer. Et dans les tout prochains jours, nous allons ouvrir, ça c'est une nouveauté, un bureau au Vatican, à Rome. Donc nous aurons comme ça des contacts directs, des informations du Vatican ou en Italie, à Rome particulièrement. La diaspora congolaise est importante dans ce pays. Et puis le rôle de l'Église catholique est tel que aujourd'hui avoir un bureau de l'ACP à Rome, à côté du Vatican,
c'est très stratégique.
C'est extrêmement stratégique et c'est non seulement pour l'information, mais également pour l'image du pays, mais également pour apporter les informations du pays sur ces terrains-là. Quand on laisse la manipulation politicienne, diplomatique, politicienne et hypocrite, c'est chargé de traiter nos informations, elle n'est pas rendue telle que nous la sentons. Le prochain cap, ce serait les États-Unis à New York, où il y a les conseils de sécurité, les Nations Unies, il y a tout ce que ça entoure en termes d'intensité de l'activité diplomatique et politique. Et nous, nous ambitionnons pour le continent, nous ambitionnons, c'est légitime, mais nous, ça dépendra aussi de la disponibilité des autorités à nous accompagner. Nous ambitionnons de nous faire le porte-voix des informations de la SADC. Ce sont en majorité des pays anglophones, mais si nous pouvons porter l'information francophone de la SADC à travers la planète, je pense que nous allons reprendre une place de leader que nous avons perdue. Et là, ce sont des idées que nous avons vendues aux autorités. Ben, nous attendons la réaction des autorités, notre ministre des tutelles, le premier ministre et les chefs de l'État. S'ils acceptent, ils nous poussent à aller vers cette direction-là. Je pense que on parlerait aussi de la République démocratique du Congo qui porte la voix francophone de la SADC auprès de l'auditoire francophone qui est également un auditoire à ne pas négliger.
chérie, ça la campele passi. Yanga bolingo et zambé au féroé.
Grand témoin.
Okapi.
Grand témoin reçoit aujourd'hui, bienvenue Marie Bakoumania Bakwala, directeur général de l'agence congolaise de presse ACP. Il est ancien directeur de la rédaction en charge des questions économiques et des investigations au quotidien Le Potentiel, ancien correspondant de Jeune Afrique, de l'agence France Presse, de Reuters, ancien producteur des documentaires vidéo sur les investigations avec Canal France International. Bienvenue Marie Bakoumania, vous avez fait allusion à la salubrité médiatique. Avec toute cette expérience que vous drainez, quel bilan dressez-vous aujourd'hui du paysage médiatique congolais?
Les médias congolais regorgent de beaucoup de talents. Énormément de talent. Mais ce que les pouvoirs publics ignorent, c'est que des journalistes mal formés, des journalistes affamés, c'est une bombe qui explosera tôt ou tard. C'est vrai, un médecin peut commettre une faute, il y aurait une personne qui va décéder, etc. Mais lorsqu'un journaliste lance une information erronée, ça peut faire basculer la République à des situations regrettables. C'est pourquoi je plaide absolument pour que les pouvoirs publics puissent apporter l'aide qu'il faut à la presse. Parce qu'il faut éviter d'avoir des journalistes mal formés et d'avoir des journalistes affamés. Et lorsqu'ils sont mal formés et affamés, ben, ils deviennent des mercenaires. Les mercenaires, lorsque vous avez dans une profession en majorité des mercenaires, les conséquences ont toujours été fâcheuses. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, les plus en vue dans la presse congolaise, c'est justement ceux qui ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie. Tout le monde, pouvoir public, société civile, aimerait passer le message à travers ceux qui ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie. C'est malheureux de le constater et c'est malheureux de le dire.
Et aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage dans la presse congolaise de ce qu'on appelle journaliste engagé.
Bon, le journaliste est un citoyen comme tous les autres. Il peut avoir des convictions, il peut s'engager pour une cause. Mais les règles d'éthique et de déontologie nous disent que nos sentiments, nos convictions restent à la porte. Dès que je prends mon clavier pour écrire le papier, j'oublie qui je suis. Je prends des distances avec les faits. Et lorsqu'on se dit engagé, c'est-à-dire on s'engage pour des valeurs, mais pas s'engager pour des idéologies politiques.
Malheureusement, c'est ce qu'on voit.
Ben malheureusement, c'est ce qu'on voit et malheureusement, c'est ce qui s'est fait et malheureusement, c'est ce que nous tolérons. Nous tolérons n'importe quoi. Ça détruit la société. Des journalistes engagés ou des journalistes populistes, parce que aujourd'hui aussi, il y a cette catégorie de journalistes populistes. On n'en a pas besoin. Vous avez des icônes comme les Kibambi Chintua. Est-ce qu'il a déjà été populiste? Il a fait juste son travail de journaliste. Point barre. Pour comme mon aîné, qu'à ce moment m'a décédé, paix à son âme, mon ancien PCA. Ils ont juste fait leur travail. Ils ont écrit des bons papiers, c'est tout. Ils ont rendu leur belle voix avec une manipulation excellente de la langue de travail. Ils ont été connus grâce à ça. Mais voyons notre génération à nous, des grands journalistes de notre génération qui se sont sabordés en se faisant porte-parole de tel ou tel camp politique. ben, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Certains ont été élus députés, ben, et puis après, c'est rien. Ce métier se meurt, ce métier est en train de connaître des moments difficiles, simplement parce que il n'est pas accompagné par les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ne se rendent pas compte de l'importance du service que la presse rend à la nation. Lorsqu'on a ces semblants de stabilité, la presse joue un rôle déterminant. Et les jours que les médias commenceront à lancer des messages de haine à grande échelle, je pense qu'on ne se parlera même plus.
Selon votre expérience, est-ce que le journalisme traditionnel serait en danger avec toutes les avancées qu'on connaît aujourd'hui, avancées technologiques notamment?
Non, plutôt les journalistes traditionnels doivent s'adapter à l'évolution technologique. C'est ce que je vois à l'ACP, dans ma rédaction. J'ai des journalistes qui ont pris de l'âge. Moi-même, le téléphone, je ne sais pas le manipuler à 100%. Parfois, il faut solliciter des enfants de 10, 15 ans. Comment? Bah, ça, la pandémie. Donc, comment on fait?
On manipule ça.
Je suis pas trop vieux, mais je suis pas jeune non plus. J'ai du mal à manipuler, à plus forte raison. Il y a des gens qui ont l'âge de mes parents. Hein. Eux, ils ont du mal à fonctionner avec les téléphones. Et lorsqu'on a du mal à fonctionner avec les téléphones et l'ordinateur, on est en marge de l'évolution technologique. Et lorsqu'on est en marge de l'évolution technologique, on risque de disparaître. C'est ce que je répète chaque jour, notamment à ma rédaction, que nous ne devons plus compter exclusivement sur le bulletin papier qui sort 24 heures après. Nous devons être en ligne avec le fil d'actualité qui donne des informations en temps réel. Et pour donner des informations en temps réel, il faut avoir une maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est le secret. Ceux qui ne vont pas s'adapter vont disparaître. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ceux qui vont s'adapter vont résister et vont pérenniser leur écriture, leur plume, leur talent devant les micros et devant les écrans.
Les élections, c'est en décembre 2023, ce n'est plus très loin. Avec votre professionnalisme, votre expérience, quels conseils donneriez-vous aux différents journalistes pour que ces élections se passent de manière apaisée?
Je suis d'avis que pour que ces élections se passent de manière apaisée, dans un pays qui a connu une période sombre de son histoire, pendant les périodes électorales, en 2006, il y a eu des violences, en 2011, il y a également des violences meurtrières, il faut que les journalistes se donne la discipline aujourd'hui de focaliser les discours des campagnes sur des questions de la société, des vraies questions de la société. Il faut que les programmes prennent les dessus sur les individus. Il n'est pas indiqué aujourd'hui que les égaux des individus prennent les dessus sur le programme de chaque candidat. Les candidats doivent venir nous dire, écoutez, moi, en ce qui concerne l'électricité, je vous propose ça, ça, ça. En ce qui concerne l'eau, je propose ça, ça. Et les journalistes doivent poser des questions en ce sens-là. On doit accorder plus d'importance au programme et moins d'importance aux égaux des individus. Et lorsqu'on aurait accordé plus d'importance au programme de chaque candidat, vous verrez que certains ne viendront même pas solliciter des interviews. Ils fuiront les interviews parce qu'ils vont se dire « je n'ai pas de projet, mon projet n'est pas
solide,
je n'ai rien à présenter, mon projet n'est pas séduisant », ils fuiront. Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qui est primordial? Préserver la paix, retrouver la paix dans l'Est, l'envoi économique. Il faut expliquer tout ça à la population. Entre les deux, qu'est-ce qui vient avant? La sécurisation de l'Est ou trouver des moyens, former une bonne armée et aller sécuriser l'Est? Je pense que les débats devraient tourner autour des questions pareilles.
Nous allons prendre pour vous ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît, que nous avons contacté. Nous allons ensemble le suivre.
Monsieur, bienvenue Marie Bakoumanya, qui est aujourd'hui le DG de l'Agence Congolaise de Presse. On s'est connu au potentiel. Bon, c'est vrai que lui, il m'a en fait trouvé au potentiel parce que il évoluait dans l'un des journaux du groupe Le Potentiel qui s'occupait pratiquement de sport et de musique, qui s'appelait, je crois, VSM. Et c'est quand on a dissous VSM que finalement il nous a rejoint dans la rédaction du Potentiel. Je me rappelle à l'époque, quand il m'a trouvé au Potentiel, j'étais sous-directeur en fait chargé des investigations et en même temps j'ai géré la rubrique économique. Et comme il était très doué aussi en économie, on a fait un duo qui a bien fonctionné en alimentant la rubrique économique. Évidemment, c'est plus tard après, quand j'ai été promis directeur des publications, et c'est alors que lui jouait le rôle de directeur de rédaction. Et comme je l'ai dit tantôt, on a fait un duo qui a réellement excellé au niveau de la rédaction du potentiel. Pratiquement pendant 10 ans, on a coordonné toute la rédaction du potentiel en alternant un peu, parce que directeur de publication, directeur de rédaction, évidemment c'était presque la même chose, c'était des grands animateurs de la rédaction. Mais c'est vrai qu'au potentiel, vous voyez, quand nous avions confié la direction du journal, certains ne donnaient même pas la chance de réussir, parce qu'on se disait, mais avec le poids du potentiel, est-ce que ces deux jeunes-là sauront relever le défi? Mais finalement, quelques années après, les gens étaient tout à fait confus de nous voir que non, voilà, on a gardé la barque et qu'on a maintenu les rythmes au niveau de la rédaction du potentiel. Voilà comment on s'est connu avec Bienvenue Marie Bakoumania, qui est aujourd'hui, et je m'en félicite d'ailleurs, directeur général de l'Agence congolaise des presses, qui l'anime d'ailleurs avec brio, parce que aujourd'hui, l'ACP commence à rayonner plus qu'avant. Ce n'est plus l'ACP qu'on a connu, un peu boiteuse. Mais aujourd'hui, c'est une ACP qui est en forme, qui excelle et qui, chaque jour qui passe, continue à innover, à nous présenter de nouveaux produits. Voilà. Ce que je retiens beaucoup plus de Bienvenue Bakoumania, parce que bon, lui, il a l'avantage par rapport à moi, parce que moi, je n'ai pas suivi un cursus en journalisme ou communication. Ma formation universitaire, c'est l'économie, donc évidemment, je me suis formé dans l'État, en étant au potentiel, et finalement, la corporation m'a accepté comme journaliste. Il est tellement allergique au ce que lui-même appelle le factuel. Évidemment, pour lui, toute information doit avoir un lien objectif. C'est-à-dire, on ne peut pas, à partir des liens, commencer à bricoler et puis avoir donné un sens à quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour lui, il tenait strictement à ce que tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on doit écrire, doit reposer sur des faits. En fait, c'est sa grandeur. Moi, je le reconnais beaucoup plus sur ce point-là. Parce que vraiment, sans fausse modestie, je dois reconnaître qu'à côté de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Lui, évidemment, il a une certaine rigueur dans sa manière de traiter l'information. Le gars a un carnet d'adresses impressionnant. Je me rappelle à la rédaction, chaque fois qu'on avait besoin de quelqu'un, on s'est dit non. S'il n'est pas encore là, on s'est dit on attend Bakoumania. Et puis dès qu'il est là, il avait la solution, parce qu'au moins, dans la ville, il savait qui contacter pour avoir telle ou telle autre information. Mon souhait est que il a de l'avant, parce que déjà par rapport à ce qu'il faut à l'ACP, il a réellement mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, nous tous, au niveau de nos rédactions, nous nous abreuvons à la source de l'ACP, ce qui ne se faisait plus depuis un temps. Bon, quant à la chanson, évidemment, il y a plein de choses que M. Lah déjà admire, mais comme il a passé une bonne partie de sa jeunesse à Bandal, qui était à l'époque le fief de Ménéa, je crois qu'une bonne chanson de Ménéa le ferait énormément plaisir. Merci.
Vous avez reconnu la personne de qui s'agit-il?
Ben oui, c'est Faustin Kouediassala. Bon, ça c'est un frère.
Voilà, Faustin Kouediassala, aujourd'hui directeur de publication du journal Eco News paraissant à Kinshasa.
Ben oui, absolument. Eco News, c'est aussi une histoire. Hein. Avec Faustin, ce qu'il dit, c'est vrai. Avec Faustin, on a constitué un duo. Lorsque nous avions pris le potentiel, lorsque l'actuel ministre des affaires humanitaires, Modeste Moutinga, avait décidé de confier le potentiel à deux jeunes gens, il avait pris un énorme risque. Parce que la vieille garde, nos aînés, qui étaient fatigués, hein, il faut le reconnaître, ils étaient fatigués, mais ils étaient là, ils nous ont encadrés. Ce sont eux qui nous ont montré la voie. Des mauvaises langues disaient, ils ne relèveront pas les défis. Mais au bout d'une année, nous avons tenu la barque. On a hissé le potentiel à un niveau international.
Et c'était quoi votre secret?
Ben, c'était justement ce que Faustin dit, c'est vrai. Pour moi, une information doit être factualisée. Si ça ne se base pas sur des faits, c'est-à-dire c'est l'imagination créatrice de l'auteur d'un papier, ça passe pas. Chez moi, ça passe pas. L'information doit être factuelle.
Et sourcée.
Sourcée, oui, bien évidemment. Sourcée, bien sourcée. Et lorsque nos reporters venaient avec des informations, nous, au niveau de la direction de la rédaction, on triait et on faisait des contre-vérifications. C'est pourquoi il était rare. On n'a jamais eu de droit de réponse. Quand nous avions dirigé le potentiel, on n'a jamais eu de droit de réponse, simplement parce que on était rigoureux, tellement rigoureux, envers nous-mêmes. Moi, il m'arrivait de sortir de chez moi à 7h et de rentrer à minuit. Faustin, pareil. Nos familles en ont souffert, nos vies privées en ont souffert. C'est dire aussi que la détermination et la disponibilité, nous nous définissions comme des bosseurs. Bien avant déjà, on était des bosseurs et quand on nous a confié des responsabilités, on était encore des grands bosseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, nous récoltons les fruits du travail que nous avions abattu. Et même aujourd'hui, nous ne sommes pas des partis de notre vision de la profession. Ce que Faustin dit est vrai. Lui, il est arrivé, que je suis venu le trouver là-bas et que lui n'avait pas de formation de journaliste. C'est vrai. Mais Pour autant, la valeur de Faustin comme journaliste, ça n'a rien à comparer sur cette place de Kinshasa. Il a une qualité énorme, un potentiel énorme.
Et on le voit à travers son journal Econews.
Econews, oui, il faut voir la rigueur avec laquelle il est en train de conduire Econews pour se convaincre que, avec la rigueur, avec les sérieux, pas populistes, pas du tout terre à terre, mais avec la qualité, ce pays, il y a moyen de faire avec la qualité.
Là, on est déjà dans votre expérience professionnelle. Hein. En 96, vous débutez dans la presse, au groupe de presse Le Palmarès. De 2002 à 2015, directeur de la rédaction en charge des questions économiques et des investigations au quotidien Le Potentiel. Comment vous arrivez au Potentiel?
J'étais au Palmarès à l'époque de le feu Michel Ladilouya. L'expérience, au bout de, je crois, 4 ans, nous nous sommes séparés. Et j'ai monté une agence avec le concours d'un aîné que je salue, le procureur Jean Mukenge Bisumbule, un grand. C'est quelqu'un qui m'a porté, qui me porte jusqu'à aujourd'hui, qui m'encadre, qui me recadre et qui me donne des coups quand il le faut, des coups de fouet quand il le faut, pour que je ne puisse pas déraper. En tout cas, merci procureur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, parce que c'était déterminant. Procureur Jean Mukenge Bisumbule, merci en tout cas, merci à ce monsieur, à cet homme, à ce grand homme qui m'avait beaucoup aidé, qui m'a adopté pratiquement. Cette aventure aussi a tourné court, parce qu'à l'époque, les importations des biens, la douane devenait un peu intenable. On ne pouvait pas réaliser des marges bénéficiaires intéressantes. Et c'est comme ça qu'un matin, le ministre Mutinga a délégué monsieur Jean-Marie Moulenda pour me dire, bon, le vieux a besoin de toi. On voudrait que tu intègres notre rédaction. Ben, sans hésitation, j'ai dit, bon, l'agence, c'est pas mal, on avait un peu d'argent, mais la passion, intégrer le potentiel, c'était la moindre des choses que je pouvais faire à l'époque. Pendant un temps, j'ai bossé aussi pour le manager Grognon.
Le journal satirique.
Satirique, oui, oui. Pendant cette période où j'étais avec l'agence, et de là, je suis allé au potentiel, lorsqu'ils ont monté VSM, du sport et de la musique, oui, ça avait fait un grand succès, ces magazines. Et là, quand on a fermé VSM, on m'a dit, bon, vous êtes journaliste économique, bon, c'est le moment de revenir à vous. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le desk économie du potentiel, et là, on a cartonné, ça, il faut le dire. Imaginez que à l'époque, les unes du potentiel, c'était plus politique. Mais avec notre arrivée, des informations économiques qui prenaient la une du potentiel. Ça, il fallait le faire. Il fallait le faire.
De la presse rouge à la presse économique.
C'était une autosatisfaction justifiée. On se disait, ouf, on a atteint notre objectif. On a imposé notre marque au potentiel. C'était de dire, si vous voulez faire passer les messages économiques, il faut passer par le potentiel. C'était pas facile, c'était exaltant.
2015 à 2022, directeur adjoint au bureau à Kinshasa-Brazzaville de l'agence France-Presse. 2007-2015, correspondant congolais de l'agence britannique Reuters. Pigiste chez Jeune Afrique pendant la même période. Producteur des documentaires vidéo sur les investigations avec Canal France International. Comment vous tombez dans cette sauce de la presse internationale?
Bon, je m'étais fait remarquer par mes articles du potentiel. J'avais par an une douzaine d'invitations. Des invitations prises en charge par des organisateurs à l'extérieur du pays, notamment à l'Europe et aux États-Unis. Je vais vous faire une confidence avec Faustin parce que ça me revient. Il y avait tellement d'invitations que nous nous sommes dit, tout ce qui concerne les États-Unis, l'Amérique, quand il y a une invitation qui tombe, même si c'est en mon nom, je donne à Faustin. Et tout ce qui venait de l'Europe, même si c'est au nom de Faustin, il me le confie. C'est comme ça que...
En tout cas, ça épargnait des conflits, hein. Ben aussi,
nous,
hein.
On s'était dit, bon, ça aussi s'est passé, on s'était dit que nous connaissons notre aîné, notre papa. Hein, le sénateur Mutinga, on s'était dit, bon, les vieux, sa politique s'est divisée pour bien régner. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas accepter d'être divisé, et nous n'allons pas donner la possibilité à qui que ce soit de nous diviser. Donc, nous allons travailler dans l'intérêt de la maison, mais dans l'unité, hein, en synergie. Et c'est pourquoi ça a marché. C'est-à-dire que les milieux internationaux avaient découvert qu'au Congo, il y avait un journaliste quelconque, mais qui s'appelait Bienvenu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il était remarqué par ses écrits, il connaissait pas ma face, mais il connaissait ma signature. Et comme ça, j'ai recevé des invitations à partir de ma signature. Un matin, les amis de Reuters, ils m'ont contacté, ben écoutez, on voudrait bosser avec vous, ben comme pigiste. Et j'ai commencé à bosser avec eux depuis 2007. C'est beaucoup d'années. Je suis resté avec Reuters, grande rigueur, mais aussi, il payait bien. Ça me permettait. de garantir mon indépendance vis-à-vis des sources. C'est vrai, la majorité des journalistes vivent du coupage parce que la pauvreté, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais moi, j'avais résolu ce problème de pauvreté en gagnant mes piges de Reuters qui payaient bien. Et c'est comme ça que je suis resté là-bas. Et un matin, je me suis dit, ben, c'est bon d'être pigiste. Mais quel est mon avenir? J'ai payé mon avion, je suis allé à Dakar parce que le bureau de Reuters était à Dakar. Je suis allé là-bas et je leur ai dit, ben, si vous ne m'embauchez pas, je m'en vais. Et je suis sûr que à côté, en face, c'est-à-dire à l'AFP, ils ont entendu que j'étais en train de menacer Reuters. Et comme ça, un matin, bon, un ami avec qui on s'était rencontré, on s'était croisé dans les rues de Lubumbashi, un Français, a fait remonter l'information. Et puis un matin, bon, c'est la direction de l'AFP à Paris qui m'invite pour un test. Et c'était parti comme ça.
Et vous avez débauché avec plaisir.
Ben, c'était parti comme ça. C'était parti comme ça. Toutes les transitions ont été douloureuses pour moi. Quitter le potentiel pour aller à l'AFP, c'est bien. L'AFP, c'est un rayonnement international. C'est une reconnaissance sublime pour tout journaliste.
Tout à fait.
Mais quitter le potentiel, moi, je me considérais un peu comme... C'était une partie de ma vie. La séparation était douloureuse. C'est pareil quand on me nomme à l'ACP, à la séparation avec l'AFP, très douloureuse. Mais si vous voulez, c'est ça la vie.
Voyons maintenant votre parcours académique. D'abord, vous naissez à Kinshasa le 7 septembre 1968. Donc, dernièrement, vous avez eu 55 ans. Bon anniversaire.
Hein? Merci.
Mieux vaut tard que jamais, dit-on.
Merci.
Vous êtes diplômé de section littéraire, diplômé en sciences commerciales et financières, en journalisme et management. D'où vous vient cette passion pour le journalisme?
Ben, c'est depuis l'école. Je suis du collège. Moi, je suis formé par les missionnaires du Sacré-Cœur et les jésuites.
Et dans quelle école précisément?
Ben, c'est au collège. Et là, on faisait régulièrement des dissertations et on faisait régulièrement des présentations.
Vous parlez de Boboto?
Oui. Alors, on faisait beaucoup de présentations. Et comme on faisait beaucoup de présentations et beaucoup de dissertations, je crois que la vocation est venue de là. Et j'aimais beaucoup écouter la radio. La radio, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'était le matin, j'allumais déjà ma radio en ondes courtes pour écouter RFI, La Voix de l'Amérique, la Radio Vatican, Canal Tropique, hein, où j'ai connu la voix d'un certain Frédéric Kitenge Kinkumba, ou de, comment s'appelle-t-il encore, l'ancien ministre de la Communication en exil aujourd'hui, son nom viendra, chargé des missions de Joseph Kabila, son nom viendra. J'ai connu ce nom-là. Et la RTNC.
Kikaya Bin
Karubi, voilà. La RTNC, et à la RTNC, il y avait une voix qui me retenait régulièrement. C'était au journal des 7h du matin. Kamandawa Kamanda Muzembe. C'est un vieux qui est resté, qui me garde toujours sous ses gardes. Hein. Il me tient toujours à la main.
Aujourd'hui, correspondant de RFI.
De RFI, oui. Kamandawa Kamanda Muzembe, je ne ratais jamais, alors jamais, le journal de Kamandawa Kamanda Muzembe à 7h. Je ne ratais jamais. Et je pense que ce sont des gens qui ont forgé en moi cette vocation de devenir journaliste. Mais par après, je me suis dit, ben non, moi, j'aime beaucoup écrire. Parce que j'aime aussi beaucoup lire. Mon premier roman que j'ai lu alors que j'étais en troisième secondaire, je crois, c'était L'Aventure ambiguë. C'est dire que j'ai commencé la lecture très très tôt. Et là, je me suis dit, ben, la radio, c'est bon, mais c'est épuisant. Alors que écrire, ça me convient. Je suis un homme qui aime rester dans l'ombre. Je n'aime pas, j'aime vivre caché et j'aime pas paraître. Ça, c'est ma nature. C'est comme ça que ma mère m'a élevé, parce que essentiellement c'est ma mère qui m'a élevé. Les prêtres et les jésuites et les missionnaires du Sacré-Cœur, ce sont eux qui m'ont aidé à grandir. Et ce sont des gens discrets, des gens qui pouvaient avoir le pantalon d'une même couleur, mais il en a à 10 exemplaires. Donc vous avez l'impression qu'il s'habille avec
les mêmes habits,
mais il en avait 10. Et tu te dis, mais ouais, à quel moment il nettoie ses habits? Tellement c'est propre, mais il en a 10 de la même couleur. Et c'est ça ma nature, c'est comme ça que moi je suis. C'est pourquoi je me suis dit, écrire, je garderai mon anonymat, mais évidemment mon nom sera connu, mais personne ne mettra le nom sur le visage tout de suite.
Malheureusement, ça a raté.
Ben non, ça a marché. Ça marchait parce que quand je vais à l'AFP, là c'est encore mieux, j'étais plus à l'aise. On signe pas de papier. C'était très bien. Mais les gens savaient toujours que bon, ça, c'est ta touche. On me reconnaissait à travers mes écrits. Ben, c'est super d'être reconnu à travers ses écrits. Lorsqu'on est reconnu à travers ses écrits, c'est-à-dire que vous avez forcé les gens non seulement à acheter le produit ou à consulter le produit, à le lire, à le maîtriser et à vous connaître. Et ça, c'est la satisfaction personnelle. Elle est au comble pour le moment. Et pour moi, cette passion ne pourra pas bénéficier au pays si je n'arrive pas à remplir ma mission à l'Agence congolaise de presse. Et à l'Agence congolaise de presse, j'estime que si j'ai le temps dont j'ai besoin et s'il y a un accompagnement, on peut implémenter énormément de choses, on peut redevenir compétitif et je pense que là on est sur la bonne voie et je pense également que on peut faire que on parle aussi de la République démocratique du Congo sur le plan médiatique. On en a besoin.
Vous parliez déjà de votre enfance. Quel type d'enfant avez-vous été?
Un enfant timide. J'étais un enfant de cœur. Ça, je peux le dire. J'étais un enfant de cœur parce que ma vie, c'était maison, école, église, bibliothèque. Moi, j'ai même pas joué au foot.
Même pas?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
En tout cas, les gens avec qui j'ai grandi peuvent témoigner. Sur les terrains de foot, c'était 30 minutes par hasard. Par hasard. Donc, moi, c'était maison, église, église catholique. Parce que je suis resté catholique, bibliothèque, la bibliothèque de l'Alliance franco-congolaise. En tout cas, tous les préposés me connaissaient.
C'est dans une famille de combien d'enfants comme ça que vous venez ici?
Ben, ma famille est composée de 10 enfants. J'étais le 6e, 8 garçons et 2 filles. Ouais. Wow. Ben, nous avons perdu notre papa tôt. Moi, je n'avais que 10 ans. Voilà. J'ai grandi entre les mains de ma défunte maman. Ben, voilà. Et aussi, je remercie toujours ce monsieur qui m'a pris à la main, monsieur Yamba, Ernest Yamba, qui était un frère à mon père, qui m'a adopté chez lui. J'ai grandi chez lui comme son enfant, comme son fils, mais aussi les missionnaires, comme j'ai dit, du Sacré-Cœur et les jésuites. Ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'ils ont joué un rôle capital dans ma vie.
Faustin Kouedliassala, que nous avons eu tout à l'heure, vous dédiez une chanson de King Kester Emenea. Est-ce que vous avez un lien avec ça?
Bon,
avec
lui? King Kester Emenea, c'est notre vieux de Bandal. Moi, je suis natif de Bandal. King Kester Emenea avait une maison en Nzobe et moi, j'habitais Chiluango, donc les deux avenues qui se suivent. Et le soir, le vieux, quand il faisait ses shows, nous, on était toujours là pour admirer notre vieux. Même si moi, j'étais toujours en retrait, mais le vieux me connaissait personnellement. C'était un aîné, même quand il était chez lui sur l'avenue Allée Verte, là, j'allais régulièrement là-bas lui rendre visite et c'est un monument pour moi du côté de la musique. C'est mon idole.
Donc, par exemple, une chanson comme Zinzi vous ferait beaucoup de bien.
Beaucoup de plaisir, hein. Énormément de plaisir. Parce que moi, je lui disais, vieux, comment est-ce que tu as changé? Reviens dans Zinzi. Zongela Zinzi, vieux. Succès au Zonga. Oh non, quand il faisait longue histoire sur l'avenue Chikapa, je disais, vieux, Zongela Zinzi. Et lui disait, Seriwana, c'est beaucoup de travail et moins de succès. Au contraire, on avait toujours un débat avec lui. Paix à son âme, c'était un homme extraordinaire. C'était un grand musicien de la République démocratique du Congo. Et après lui, il y a le Karmapa. C'est un ami, c'est un ancien caricaturiste. Wow. Les gens ne le savent pas. Oui, il y a Salongo. On échange beaucoup, on échangeait beaucoup. Et ce sont pour moi les deux qui restent pour moi des grands musiciens qui font la musique que moi j'aime. Mais le vieux Kester, c'est le top, quoi.
Like table. Banda kumbi benze o nana kumba rolse o. Banda na Ferrari nana Lamborghini. Banda kumbi benze o nana kumba nini. Banda la tiroze o motema nana.
Radio Capi, grand témoin.
Notre entretien est en train de se terminer. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient de Bienvenue Marie Bakoumania?
Ce qu'il faut retenir de Bienvenue Bakoumania, c'est que c'est un journaliste d'abord, foncièrement journaliste, il va le demeurer, plus longtemps possible, aussi longtemps que Dieu me prêtera à force, j'aimerais rester même dans l'âme journaliste.
N'est pas tenté par la politique?
La politique, que tu le veuilles ou pas, la politique va te suivre. Et aujourd'hui qu'on assume des responsabilités à ces niveaux-là, on commence à regarder la vie différemment. On commence à se dire, est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt ça, plutôt que ça? Est-ce que on ne devrait pas entrer, mettre le pied à l'étrier, mettre la main à la pâte pour que nous puissions également modeler les choses différemment? Mais aujourd'hui, comme technicien, je suis en train de moderniser l'Agence Congolaise de Presse. Si je fais mes preuves là-bas et que je finis, je vais revoir ma vie différemment. Ce qu'il faut retenir de moi, c'est que je suis très rigoureux envers moi-même. Mes proches vous le diront. Quand je travaille, je n'aime pas la distraction. Je suis un homme déterminé, foncièrement amoureux de ce pays. J'aime particulièrement la région de Béni, qui est un paradis. Je trouve ça comme étant un paradis. J'aime particulièrement cette partie du pays. Et dans le métier de journaliste, lorsqu'on n'est pas factuel, lorsqu'on ne se base pas sur des faits, on est simplement manipulateur, on est simplement spéculateur. Et la spéculation et la manipulation ne vont pas de pair avec le métier de journaliste. L'héritage que nous, on peut laisser aux jeunes gens qui montent, c'est de dire, ne venez pas dans ce métier pour s'enrichir, ne venez pas dans ce métier pour devenir des vedettes, venez dans ce métier pour servir.
Bienvenue Marie Bakoumania, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin.
Merci à vous Alain Yvon.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Irung Mouchinj, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.